Claude reprend la parole.
Merci Serge. Donc on reprend le cours de la session 5. On a eu la présentation de Christophe Sorger et donc maintenant une présentation de Christine Ollendorf sur les archives ouvertes en France aujourd'hui. Christine, bienvenue.
Bonjour à tous. Donc je vais vous parler principalement des actions du GTAO Couperin pour promouvoir l'open access en France principalement. Alors la première diapo, c'est un petit résumé de résultats de l'enquête archives ouvertes qu'on a menée à l'automne 2014 et où on demande aux bibliothécaires quels sont les freins au dépôt en archives ouvertes cités par les chercheurs. Et donc, ce qui ressort, le premier qui ressort, c'est « je n'ai pas le temps ». Le deuxième, c'est « je n'ai pas le droit ». Et puis après, il y a pas mal d'items qui ressortent, mais dont « c'est trop compliqué » ou « les réseaux sociaux de la recherche font très bien ça à la place des archives ouvertes, donc je n'ai pas la peine de déposer ». Donc voilà un des premiers contextes qu'on rencontre. Le deuxième contexte qu'on rencontre, là, c'est dans les projets même d'archives ouvertes. On voit qu'on a des problèmes autour de la communication institutionnelle menée autour de ces projets. C'est-à-dire que souvent, ces projets-là sont des projets des bibliothèques, entre guillemets, et qu'il y a assez peu de communication de l'institution sur ces projets. Les bibliothécaires rencontrent des problèmes d'implication des chercheurs et, dans une moindre mesure, de moyens humains et de volonté politique. Donc, vous voyez, avec ce double contexte, d'une part, les chercheurs qui nous disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le droit », d'autre part, les difficultés rencontrées dans le montage de ces projets, on voit que le paysage de l'archive ouverte en France, bon, il se structure autour de ces difficultés-là. Alors, le GTAO, c'est le groupe de travail pour l'accès ouvert de Couperin. Il y avait une version 1 du GTAO qui existait entre les années 2008 et 2012, je crois, et il a été recréé en 2013. Il y a une quarantaine de participants de tous établissements et organismes. Et il s'est structuré en 4 sous-groupes. Donc un sous-groupe qui travaille plus sur les bonnes pratiques et les usages, un sous-groupe autour de l'information-communication et qui va aussi promouvoir les actions du GTAO, un sous-groupe autour de tout ce qui est juridique et un autour de tout ce qui est spécification fonctionnelle et technique. Et il se réunit de manière plénière assez régulièrement, tous les 2 mois. Et il y a également ce qu'on a appelé pompeusement un directoire qui se réunit environ 1 fois par mois par téléphone. Et à côté de ça, il y a environ 175 correspondants open access qui ont été nommés dans les établissements, qui sont à la fois des bibliothécaires et des chercheurs. L'idée avec ces correspondants, c'était vraiment qu'on ait des chercheurs pour porter le relais des actions Couperin sur l'open access. On n'y a pas encore tout à fait réussi, à mon avis. Alors, je vais vous décrire rapidement les actions du GTAO en 2014 et 2015. On a principalement, en 2014, coordonné l'organisation de l'Open Access Week avec la création d'un petit site web qu'on voit à droite, là, qui a permis de mutualiser les événements qui ont été faits en France. Et puis, on a participé au financement de quelques événements par l'intermédiaire du projet Foster, qui est un projet européen qui a pour but de promouvoir l'open access, en particulier auprès des doctorants. Et dans ce cadre-là, on a également commandé 4 films de promotion de l'open access qu'on va mettre en avant prochainement, et je vais vous montrer comment. On a également mené 2 enquêtes, grâce aussi à des stagiaires qu'on a pris, hein, parce que on fait ça en plus de notre travail, souvent, donc c'est un petit peu délicat. Donc on a pris des stagiaires, on a pu faire 2 enquêtes, une sur les réseaux sociaux de la recherche, qui était la première enquête là-dessus en France, qui a eu presque 1700 réponses, je crois, et qui a vraiment donné les premières indications sur l'utilisation de ces réseaux en France. À noter que les données brutes de cette enquête sont en ligne. Et la deuxième enquête sur les archives ouvertes, donc de l'automne 2014, dont je vous parlerai un petit peu après. On a également travaillé sur la rédaction d'un avenant au contrat de publication qui lie un chercheur qui publie avec l'éditeur, dans lequel le chercheur va contractualiser avec l'éditeur qu'il va mettre sa publication en ligne. En 2015, on a eu deux journées d'études, une sur les référentiels en juillet, dans lequel le but de cette journée, c'était vraiment de réunir les différents acteurs qui parlent des référentiels en France, donc avec Oréal, le RNSR, Orcid, IDREF, et j'en passe sûrement. Et donc c'était une première prise de contact entre les gens, et ça a permis de créer de nouveaux partenariats. On avait également fait en décembre 2014, une journée d'études sur l'administration de HAL, et en particulier le protocole SWORD, et les nouveautés de l'administration en V3, et puis les liaisons entre les archives ouvertes institutionnelles et HAL. On a également travaillé sur la cahier des charges et la rédaction d'un site web Open Access Couperin, dont je vais vous parler. On a travaillé à l'organisation de ces journées, ce n'était pas une mince affaire. Et on a également travaillé sur des prises de contact avec les éditeurs français pour connaître leur position sur l'Open Access, parce qu'il y a pas mal d'éditeurs français dont on ne connaît pas la position. Alors, quelques transparents sur l'enquête, là. Donc elle a eu lieu en automne 2014. On avait eu 112 réponses. Donc c'était la troisième du genre. Il y avait eu 2008, 2010, je crois, 2012 et 2014. Donc sur les 112 réponses, on voit qu'il y a en gros 80% d'archives ouvertes qui sont en service ou sur un projet déjà bien avancé, donc ce qui est un chiffre plus important que celui des précédentes enquêtes. Donc on peut penser que l'archive ouverte en France est un projet qui quand même avance bien et se structure. Et on voit que les motivations des établissements, c'est en premier lieu valoriser les travaux de recherche et l'établissement. C'est en deuxième lieu archiver et diffuser le patrimoine numérique de l'établissement. Et puis il y a différents items, dont gestion des publications et évaluation de la recherche. Il y avait la question sur les plateformes de dépôt utilisées. Donc on voit que là, 73 répondants avaient un portail ou une collection HAL, et 26 répondants une archive ouverte sur une autre plateforme. Sur ces répondants qui ont une autre archive ouverte sur une autre plateforme, il y en a une bonne quinzaine qui envoient leurs données dans HAL. Donc on voit par là que HAL est bien la plateforme d'archives ouvertes nationale sur laquelle vont s'accrocher la plupart des archives ouvertes. Quand ce n'est pas HAL, c'est Archive, c'est REPEC, etc. Et là, j'ai fait un petit écran sur les autres plateformes utilisées quand on n'utilise pas HAL. Alors, les politiques de dépôt, donc on a demandé aux gens quelles étaient leurs politiques, quelle était la politique de dépôt dans l'archive ouverte, s'il y en a une, donc qui va de l'obligation avec un mandat formel pour 13 répondants sur 94, l'incitation avec 44 répondants sur 94 et le libre choix avec 37 répondants. Dans les obligations, on voit dans les commentaires que ça va du mandat formel au mandat que j'ai appelé type liège, donc avec obligation, à des choses qui sont plus légères par des notes de service ou par mail, ou à des choses qui correspondent en fait à des obligations de référencement des publications. Dans les incitations, on a des chartes qui sont adoptées en conseil scientifique. Il y a aussi des gens qui appellent des sessions de formation, qui appellent ça de l'incitation, ou des choses plus formelles votées par le conseil scientifique ou dans le rapport d'activité. Donc en fait, on a différents degrés à la fois d'obligation et à la fois d'incitation. Et au niveau du texte intégral, donc on a demandé aux gens quelle était la proportion de documents en texte intégral dans l'archive, même s'ils sont sous embargo. Hein, c'est vraiment les articles en texte intégral qui sont dans l'archive. Donc on voit que on a 12 archives qui ont entre 0 et 20% de texte intégral. On en a 38 qui ont entre 20 et 50%, et on en a 20 qui ont plus de 50%. Dans ces 20, on en a 9. On a 9 établissements qui annoncent 99 ou 100% de texte intégral. Donc je suis assez fière de dire que l'ENSTAM en est un, puisque nous, on annonce forcément 100% de texte intégral, puisque le dépôt du texte intégral est obligatoire pour déposer. Mais il y a également l'INP Toulouse, l'ESSEC, l'IRCTA, enfin, je ne vais pas tous les reciter. Et donc, vous voyez que on avait vu hier une diapositive avec du texte intégral en Allemagne. On est un peu dans les mêmes proportions, finalement. Alors, les actions à venir du GTAO, On a vu la position de la CPU sur l'open access et l'open data là récemment. Et donc nous, on se dit qu'il semble y avoir un début de volonté politique, donc on va essayer de l'accompagner hein, et d'être là au mieux pour accompagner ça avec des archives ouvertes. On va aussi travailler sur les données de la recherche, qui est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé dans le GTAO, parce qu'on pensait qu'il était fondamental de commencer par les archives ouvertes, de les constituer, et après de voir comment on allait travailler sur les données de la recherche. On va continuer à essayer de former et informer les jeunes chercheurs, en particulier avec le projet Foster. Et notre objectif, c'est vraiment de servir de courroie de transmission entre les archives ouvertes, HAL, les bibliothèques et l'ensemble de la communauté, afin de promouvoir l'open access. Et donc un cinquième objectif qui est de promouvoir l'open access auprès des chercheurs. Donc pour ça, j'ai l'immense honneur de vous annoncer l'ouverture du site openaccess.couperin.org. Qu'on a rédigé ces derniers mois et qui a été ouvert hier, donc dans l'objectif de ces journées, et qui normalement devrait fonctionner, si tout se passe bien, quand je clique là. Voilà, donc c'est un site qu'on a voulu à destination des chercheurs, vraiment, donc c'est qu'on a voulu de rédaction très simple, très claire, et dans le but de promouvoir l'open access auprès des chercheurs. Donc avec une page d'accueil qui reprend les vidéos qu'on a commandées dans le cadre du projet Foster, donc avec quelques vidéos basiques sur l'open access. Et puis, je ne vais pas vous le montrer en entier, mais je voulais juste vous montrer une page qui me semble importante. C'est celle-ci, les questions fréquentes. Donc j'ai déposé en open access comment indiquer les usages que je permets, etc. Donc on répond simplement à la question et on propose aux gens de nous poser des questions sur un petit formulaire. Excusez-moi. Voilà, ici. Et ce n'est pas un formulaire derrière lequel il n'y a personne, c'est un formulaire derrière lequel il y a des membres du GTAO et qui vont répondre aux questions des chercheurs, réponses qui ensuite seront mises en ligne. Voilà, donc on a voulu ce site très très pragmatique et on espère qu'il va fonctionner pour promouvoir l'open access en France. Je remercie pour ça beaucoup les membres du GTAO qui sont impliqués, pour ça et pour tout le reste d'ailleurs, principalement pour ça, parce qu'il y a deux semaines, on avait des sueurs froides en disant qu'on n'y arriverait jamais. On y est arrivé, et aussi avec le portage de l'INIST, donc c'était une très bonne chose. Merci à vous.
Merci Christine pour cette belle présentation. Des questions ? Commentaire. Je ne vois pas de bras qui se lèvent. Je peux commencer si. Je peux commencer par. Bon, c'est super de mobiliser les chercheurs et de leur montrer tout l'intérêt, de les aider, etc. Du point de vue des établissements, quand on voit le travail qui a été fait par exemple à Liège, on voit que les établissements ont un rôle fondamental par rapport à l'open access. Comment se situent les travaux du...
Pour mobiliser les établissements ?
Oui.
Nous, on est Couperin, donc on est une association de bibliothécaires au départ. Donc on essaye, non ? Pardon. D'établissements portés par leur bibliothèque, non ?
Ah oui, mais c'est une association d'établissements.
Oui, Monsieur le Président. C'est une association d'établissements, mais qui réunit énormément de bibliothécaires pour parler de l'open access. Et donc, ces bibliothécaires-là, ils essayent de promouvoir des mandats auprès de leurs établissements. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, on avance petit à petit là-dessus, mais on avance un peu lentement, à mon goût, c'est vrai.
Bon, en tout cas, je pense que c'est vraiment important d'aller aussi dans ce sens-là, parce que je pense que l'expérience de Liège le montre. Vous verrez tout à l'heure avec l'exposé de François Sillon, je ne sais pas s'il est encore s'il est déjà dans la salle, du point de vue d'INRIA, le mandat qui est donné par Antoine Petit à tous les chercheurs d'INRIA. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental que les établissements prennent position de façon très claire.
Enfin, j'insiste un tout petit peu. Non, mais je pense que le travail qui est fait par ces groupes, etc., c'est un excellent travail. Pardon. Je pense que le site qui arrive est quelque chose de tout à fait souhaitable. Le vrai problème que l'on rencontre quand même en permanence, et depuis un certain nombre d'années, et nous sommes quelques-uns à pédaler le plus fort possible, mais on n'y arrive pas, c'est d'arriver à une sensibilisation, à un engagement. Je ne dis pas comme Bernard, parce que ça, on ne l'aura pas à 100% en France, mais une motivation forte de la part des équipes de direction, vice-président ou président d'université. Même chose, enfin, bon, je trouve que dans les organismes, il y a peut-être ça va peut-être un petit peu plus vite, et il y a peut-être dans un certain nombre d'organismes une motivation qui est peut-être un petit peu plus forte. Pour le monde que je connais un tout petit peu plus, qui est celui des universités en France, on a quand même quelques marges de progrès. Et j'insistais quand même sur le caractère, comment dirais-je, la nature même de Couperin. C'est bien pour ça. C'est parce qu'il est nécessaire que les responsables s'engagent beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui.